Hola, hola, chers auditeurs de Rencontres Lusophones. Soyez les bienvenus dans notre émission qui émet tous les samedis sur la fréquence de Radio Résonance Bourges. Ce soir, pour des raisons professionnelles, nous avons enregistré cette émission et nous transmettons donc en différé. La chronique culturelle sera assurée par Manu qui va nous parler de trois femmes portugaises célèbres. Quant à moi, j'assurerai le billet d'humeur d'aujourd'hui qui est en quelque sorte la conclusion de la chronique culturelle de la semaine dernière que je n'ai pas pu terminer. Je vous rappelle que je m'étais posé la question, à savoir, y a-t-il eu des Portugais déportés dans les camps de concentration nazis pendant la Seconde Guerre mondiale alors que le Portugal n'était pas impliqué dans cette guerre ?
Résonance 96.9.
Sur Rencontres Lusophones, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique.
C'est la petite chronique.
Samedi dernier, le thème de la chronique culturelle était en rapport avec les dernières élections présidentielles portugaises et le spectre de l'extrême droite menée par André Ventura qui menace désormais l'horizon politique portugais. Et pourtant, depuis que la révolution des œillets de 1974 avait chassé la dictature, je trouvais le Portugal relativement stable et épargné par la vague d'extrême droite qui depuis quelques années se répand sur toute l'Europe. Et c'est justement ce qui m'a étonné. Comment un pays débarrassé de sa dictature depuis à peine un siècle a-t-il pu succomber à la tentation de l'extrême droite ? Je pense avoir malheureusement une partie de la réponse. C'est que l'homme a souvent la mémoire courte. Et pourtant, le Portugal a la chance de posséder encore une partie de cette mémoire de la révolution des œillets, car nombre de ceux qui y ont participé sont encore là aujourd'hui. Et bien justement, lorsque comme moi on a des origines portugaises, comment ne pas craindre ce spectre de l'extrême droite ? En plus, coïncidence ou hasard du calendrier, le triste anniversaire de l'Holocauste est tombé en plein pendant le scrutin portugais. Je n'ai donc pu m'empêcher de faire le lien avec les horreurs engendrées par le nazisme. Et rempli de cette crainte, je me suis demandé si malgré la neutralité du Portugal pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait été possible que parmi tous les prisonniers ayant transité par les camps nazis, aucun n'ait été portugais. Eh bien, j'ai trouvé la réponse dans une enquête menée par deux journalistes portugais en 2013, Patrícia Carvalho et Nelson Garrido, et qui, suite à une visite du camp d'Auschwitz, se sont posé exactement la même question. Y a-t-il eu des Portugais victimes de l'Holocauste ? Et s'il y en a eu, pourquoi n'en a-t-on jamais entendu parler ? Eh bien, après avoir lu et parcouru des dizaines et des dizaines de documents d'archives, ces deux journalistes sont arrivés à la conclusion que oui, il y a bien eu des Portugais dans des camps de concentration nazis, et ce, malgré la neutralité du Portugal dans le conflit de 39-45. Certains y ont même perdu la vie parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils étaient affiliés au Parti communiste en France ou parce qu'ils étaient engagés dans la résistance. Après des mois d'enquête, de visites et d'interviews, les deux journalistes ont donc enfin réussi à retrouver la trace de plusieurs victimes portugaises qui ont transité par les camps nazis d'Auschwitz, Buchenwald et de Ravensbrück. Parmi toutes ces victimes, et près de 70 ans après la guerre, ils ont réussi à reconstituer les histoires de Michael Fresco, celle de Luís Freire, celle de Maria Barbosa, celle de Cândido Ferreira, celle d'António Ribeiro, de Venâncio Dias, de Aníbal dos Santos ou de Casimir Martins. Alors une question se pose. Pourquoi le Portugal ne s'est-il jamais préoccupé de récupérer ou de regrouper les histoires perdues de ces Portugais déportés et morts en déportation ? Les centres de recherche de victimes en France et en Allemagne sont catégoriques. Ils n'ont jamais reçu de demande émanant du Portugal pour retrouver d'éventuelles victimes portugaises. Alors pourquoi ? Doit-on en déduire que les Portugais ne connaissaient pas l'existence de ces centres de recherche ? Ou pensait-on que, comme le Portugal avait été neutre lors de la Deuxième Guerre, les Portugais n'avaient pas été persécutés par les nazis ? On le sait. On sait pourtant que de tout temps, les Portugais ont toujours émigré. Il était donc logique que quelques-uns d'entre eux se soient retrouvés enrôlés dans cette guerre. D'ailleurs, certains historiens et chercheurs portugais ont bien essayé de travailler sur des sujets comme l'émigration portugaise en France, sur les relations entretenues entre la France et le Portugal pendant la guerre, sur l'internement des opposants à Salazar dans des camps français. Mais avant ces deux journalistes, jamais personne n'avait fait d'investigation à la recherche de Portugais dans les camps de concentration ou sur les Portugais impliqués dans la résistance. Et encore une fois, pourquoi ? Les raisons de ce silence sont peut-être liées au fait que le Portugal n'étant pas impliqué dans la guerre, Salazar savait peut-être, mais voulait cacher la vérité. Parce que pour l'instant, et avant cette enquête journalistique, les seules traces de Portugais de l'Holocauste, on les retrouve dans le livre « Les Portugais dans l'Holocauste », un livre de Esther Musnick, qui indiquait déjà le nom de certaines victimes portugaises dans les camps de concentration. Dans son livre édité en 2012, elle écrivait d'ailleurs que la France avait fourni à la résistance le plus grand contingent de Portugais. Et que penser également du manque criant de correspondance entre la France et le Portugal pendant la guerre concernant les résidents portugais en France. Entre 1939 et 1945, les seuls télégrammes échangés entre les deux pays se référaient à la question des Juifs cherchant à obtenir des papiers portugais ou à l'intérêt français de recevoir des travailleurs portugais sur son territoire pour travailler dans l'agriculture. La France et le Portugal savait pourtant que malgré la neutralité du Portugal, les Allemands procédaient régulièrement à des arrestations abusives et massives de résidents portugais pour alimenter leurs camps de travail forcés. On sait également que dans ces rafles organisées par les Allemands pour casser les noyaux de résistance, on comptait régulièrement de nombreux Portugais. 1944 a été d'ailleurs la terrible année qui a vu le plus de Portugais envoyés dans les camps de concentration à destination de Dachau, Buchenwald ou Auschwitz. On le sait parce que pour chacun d'eux, on a retrouvé leur nom sur des listes de transport et on sait que tous ont quitté la France avec la même indication, prisonniers politiques. Tout ce silence de la part de l'État portugais est lourd et incompréhensible. Et pourtant, pour éviter de replonger dans l'horreur, toutes ces histoires mériteraient d'être racontées à tous les Portugais.
Quero ir C'est l'heure de la chronique culturelle
de Rencontre Lusophone.
L'histoire du Portugal a été faite par d'innombrables hommes et femmes qui se sont succédés au fil des siècles. Bien sûr, la postérité a plutôt tendance à ne retenir que les noms des hommes remarquables qui ont forgé la nation, que l'on appelle de nos jours Portugal. Et oui, on dirait bien que l'histoire est aussi misogyne qu'une certaine partie de la gente masculine. On peut donner aussi comme explication qu'elle fut principalement rédigée par des hommes. Mais bon. Et pourtant, je serais tenté de dire que même Hitler avait une mère, et que, sans les femmes, l'histoire n'existerait pas. Vous allez me dire que l'inverse marche pareil et que sans les hommes, bref. Tout ce joli préambule n'avait qu'un but, c'était pour vous dire qu'aujourd'hui, nous inaugurerons une série d'émissions sur les femmes les plus remarquables de l'histoire du Portugal. Dans l'émission d'aujourd'hui, deux femmes seront à l'honneur. L'une a vécu au XVIe siècle et fut immensément riche. L'autre a vécu au XXe siècle et fut immensément pauvre. La première s'appelait Dona Gracia. Et la seconde, Catarina Eufemia. Vous vous demandez quelle peut être la similitude entre les deux femmes que toutes les apparences opposent. C'est que toutes les deux, selon leurs moyens, ont essayé d'aller jusqu'au bout de leurs convictions. Si elles n'ont pas réussi de leur vivant, du moins, elles ont parvenu à semer des idées qui ont inspiré les générations qui suivirent. Et puis, en deuxième partie, nous parlerons de celle qui fut certainement la plus grande poétesse du XXe siècle, Sofia Merlo-Brenner, qui a écrit un magnifique poème sur Catarina Eufemia, que nous écouterons en fin d'émission et qui contribua à la faire connaître. Comme les femmes sont à l'honneur aujourd'hui, vous pensez bien que nous n'aurons que des intermèdes musicaux interprétés par des belles voix féminines. Et voici la première, la chanteuse qui est certainement la plus célèbre de l'histoire de la musique portugaise. J'ai nommé évidemment Amália Rodrigues.
Que faço ou meu cansaço de sentir que quanto faço não é feito só por mim. Daí este meu cansaço de sentir que quanto faço não é feito só por mim.
À la fin du XVe et début XVIe siècle, les populations juives n'étaient pas à la fête dans la péninsule ibérique. Une première fois expulsés d'Espagne, beaucoup d'entre eux trouvèrent un refuge au Portugal, et plus particulièrement les plus riches. Mais le roi Manuel Ier, ayant épousé la fille des rois catholiques espagnols, eut comme condition, pour avoir la main de leur progéniture, d'expulser à son tour les juifs du Portugal. Le cul entre deux chaises, le bon roi Manuel se tâta longtemps, car les communautés juives pesaient assez lourdement sur la balance financière du pays. D'un côté, il avait besoin de l'argent des juifs pour financer ses expéditions maritimes, et de l'autre, il fallait épouser la fille des rois d'Espagne pour s'en faire un allié. Alors le souverain, un brin finaud, eut une merveilleuse idée, du moins de son point de vue. Il fit paraître des décrets stipulant que les juifs étaient expulsés, mais que ceux qui abandonneraient la religion hébraïque et qui embrasseraient la foi catholique pourraient rester. Beaucoup s'y refusèrent et quittèrent le Portugal pour d'autres destinations, vers les Pays-Bas entre autres. Ceux qui sont restés adoptèrent la religion chrétienne. On les appela les convertis, ou conversos en portugais. Mais certains les soupçonnaient de pratiquer leur ancienne religion et on les surnomma assez vite les maranes. Dona Gracia Nassi, ou Beatriz da Luna, selon le nom catholique, est née le 20 juin 1510 à Lisbonne. Elle est issue d'une famille juive marane. Ses parents avaient fui l'Inquisition espagnole quelques années auparavant et avaient trouvé refuge au Portugal. Gracia en portugais est l'équivalent de Anna en hébreu, de Anna. Son père était le docteur Agostinho Mix et il enseignait la médecine à l'université de Lisbonne, dont le nom hébreu était Nassi. Les premières années de petite fille de Dona Gracia furent catholiques et elle fut imprégnée de l'enseignement chrétienne. Ce ne fut qu'à l'âge de 12 ans qu'elle apprit qu'elle était juive. À 18 ans, elle se marie avec Joseph Mendes, qui lui aussi est issu d'une famille juive convertie. Il a 48 ans et a fait fortune dans le commerce des épices. Le mariage juif se passe dans une cave en secret, avant le mariage officiel à l'église. Son mari, 10 ans plus tard, disparaîtra prématurément, et Dona Gracia se retrouvera, à 28 ans, et grâce à une gestion extraordinaire de sa part, une des femmes les plus riches d'Europe. Elle aura une fille, Senna, née également à Lisbonne. Puis, en 1536, l'Inquisition se renforça au Portugal, et devenait de plus en plus menaçant pour les convertis. Elle prit donc la décision de partir et s'installe à Anvers, aux Pays-Bas. De son départ du Portugal, elle abandonnera les biens fonciers qu'elle avait sur place. Avec son beau-frère Diogo Mendes, elle cogère les activités des banques Mendes, une des plus importantes banques de l'époque. En Europe, ils prêteront pendant des années aux rois et seigneurs de différents pays. À la mort de Diogo Mendes, Charles Quint, qui est également souverain des Pays-Bas, tentera de s'emparer de sa fortune, mais Dona Gracia parviendra à s'enfuir d'Anvers. En 1549, en menant avec elle sa fille, sa sœur, désormais veuve, sa nièce et la majorité de ses biens et de sa fortune. Toute la famille trouvera refuge à Venise, en Italie. Mais en 1550, tous les juifs maranes seront expulsés de Venise. Elle retrouvera encore une fois refuge à Ferrare, dans le sud de l'Italie, où elle sera emprisonnée 2 ans pour relapse. Être condamné pour relapse, c'est le fait d'être revenu sur votre promesse, au point de vue religion. Par exemple, les convertis qui avaient embrassé le catholicisme et qui par la suite sont revenus à la religion hébraïque.
Me teima em não ficar calado. Quis soltar a mágoa, a ansiedade dos dias da verdade, tão diferentes do passado. E agora que soltei o meu grito, não me em desatino eu aviva este amor. Quis viver um amor quase mortal que não me levasse a mal ter tamanho coração. Fui amada na ilusão de quem não era, talvez porque tanto dera sem saber que era em vão. E o meu pecado é ainda acreditar ser possível querer amar dando ouvidos à razão. Se o amor é louco como dizem por aí, eu que a mim sempre menti vou escutar meu coração. Querer amar dando ouvidos à razão. Se o amor é louco como dizem por aí, eu que a mim sempre menti vou escutar meu coração.
Em 1553, elle se rendra à Constantinople en Turquie. Son neveu Joseph était ministre du sultan Soliman le Magnifique. Donna Gracia fut accueillie chaleureusement, vous pensez bien. Et elle s'installe à Galata, où enfin elle peut pratiquer sans risque et librement sa religion d'origine. Galata, à cette époque, deviendra le centre de l'aide mondiale aux convertis et aux juifs maranons en butte contre toute persécution de toutes sortes. Elle aidera financièrement et logistiquement tous les juifs convertis et séfarades à fuir la péninsule ibérique pour s'installer dans l'Empire ottoman où le sultan Soliman laissait pratiquer librement la religion juive. Elle fera éditer pour la première fois une traduction de la Bible en judéo-espagnol. Puis, en 1556, aidée du sultan, elle interviendra près du pape Paul IV, qui sortira une bulle papale particulièrement sévère à l'encontre des juifs, ce qui provoquera des pogroms un peu partout en Europe, et notamment au Portugal. La fameuse bulle s'appelait le « Cum nimis absurdum ». Suite à l'exécution de 100 juifs à Ankoun, elle cherche à créer une autonomie juive en terre d'Israël, pouvant accueillir les juifs opprimés de par le monde. Dans un premier temps, elle essaiera d'acheter Jérusalem, qui lui sera refusée, mais elle parviendra auprès du sultan à acquérir la région de Tibériade contre une somme d'argent faramineuse. Son gendre sera chargé de reconstruire les différentes villes de Tibériade, qui étaient dans un piteux état, et il aura comme tâche également d'aider les convertis à s'y installer. L'objectif de Donna Gracia était clairement de faire de Tibériade une terre promise pour des milliers et des milliers de juifs. Elle mourut à Istanbul à l'âge de 59 ans, sans avoir pu réaliser son rêve de s'installer en Tibériade. Hélas, son entreprise de nouvelles terres promises eut à terme peu de succès auprès de ses compatriotes. Mais elle avait lancé une idée en l'air, qui 400 ans plus tard se concrétisera par la fondation de la terre d'Israël en 1948. Un jour, un érudit contemporain de Donna Gracia, Rabbi Isaac Abouav, écrira sur elle. Quiconque entreprend de raconter les nobles actions et les rares vertus de Donna Gracia devra écrire des volumes, s'il veut lui rendre justice. La figure de Donna Gracia tombera dans l'oubli dans les siècles qui suivirent. Ce n'est vraiment qu'au XXe siècle qu'elle sera reconnue et que l'on se rappellera d'elle. De cette femme née à Lisbonne qui avait tenté pour la première fois voulu créer une terre d'accueil pour les juifs du monde entier. Depuis, au niveau de la reconnaissance du personnage, en 1992, un timbre israélien fut émis à son effigie. En plus du portrait de Donna Gracia figure sur le timbre un dessin de Tibériade. En 2000, le musée Donna Gracia est créé à Tibériade par Yaakov Amsalem. Il est consacré à la vie et à l'œuvre de la Grande Dame. En 2001, une pièce de théâtre, écrite en turc, lui sera consacrée. Pour le 500e anniversaire de sa naissance, la ville de New York désignera un jour Donna Gracia. En 2010, suivi par Philadelphie un an plus tard, qui instaurera elle aussi une journée Donna Gracia. On peut dire aussi qu'un site web à son nom fut créé, ainsi qu'une page Facebook. Ah oui, il y a aussi un petit vin blanc italien qui porte son nom. Il y eut également une exposition à Lisbonne, sur elle parrainée par le gouvernement turc. Et enfin, n'en jetez plus, une médaille commémorative à son effigie fut frappée par le gouvernement israélien.
Tenho dores fechadas em caixinhas, contra mim, contra ti, contra lá, contra os dias que passam a meu lado. Tenho dores fechadas em caixinhas, contra aqui, contra ali, contra cá, que me dizem estou aqui, estamos lá. Ah, diz-me lá, ah, diz-me aqui. Oxalá, oxalá te veja ao meu lado, ao pé de mim. Contra mim, contra ti, contra lá, contra os dias que passam a meu lado. Tenho dores fechadas em caixinhas, contra aqui, contra ali, contra cá, mas que me dizem estou aqui, estamos lá.
Le XXe siècle au Portugal fut, pour une bonne partie, le siècle de Salazar et de sa dictature qui dura presque 50 ans. La richesse et les pouvoirs étaient aux mains que d'une petite frange de la population. Le reste était pauvre, et même très pauvre, pour une petite partie des gens. Dieu, patrie, autorité, famille et travail. Tel était le leitmotiv du gouvernement salazariste. C'était « bosse et tais-toi et contente-toi de ce que l'on te donne ». La pauvreté était immense dans les années 50. La plupart des gens dans les campagnes étaient journaliers et gagnaient à peine de quoi survivre. Le phénomène était le même du nord au sud, mais cela était plus criant au Nualanteiju, où l'on trouvait des énormes propriétés agricoles de plusieurs centaines, si ce n'est des milliers d'hectares. À cette époque, la GNR et la PID veillaient au grain pour éviter toute forme de contestation et toute prémisse de grève était vite réprimée. On peut dire que les ouvriers agricoles au Portugal dans les années 50 étaient carrément exploités. S'en suivit, plus tard, l'hémorragie migratoire des années 50 et 60, au point que l'agriculture se trouve, au Portugal, à la veille de la révolution de 1974, dans un état de crise profonde, empêtrée dans des structures archaïques et, en tout cas, incapable d'assurer l'alimentation de toute la population. Au point que certaines mauvaises langues disaient, à qui voulait bien l'entendre, que le Portugal était le tiers-monde de l'Europe, ce qui, il faut bien l'avouer, n'était pas entièrement faux. Et puis, au milieu des années 50, on commença à voir quelques protestations et des grèves, surtout en pleine période des moissons, et surtout des récoltes, quand alors il y avait énormément besoin de main-d'œuvre. Mais la répression était forte et quelquefois cela tournait au vinaigre. C'est ce qui arriva ce jour de mai 1954, où une jeune femme, du nom de Katharina Efizenia Sabino Efemia, devint le symbole de la résistance contre le régime salazariste. Sa figure est souvent évoquée lors des célébrations du 1er mai. Katharina naît à Balenzan, dans le district de Bège, Nouvelle-Antège. Elle ne fréquentera pas beaucoup les bancs de l'école et travaillera tôt dans les champs. Elle sera, comme une bonne partie de sa génération, analphabète. À 26 ans, au moment de son meurtre, elle était mariée et avait 3 enfants. Au cours du mois de mai 1954, la période de la moisson du blé bat son plein. Les conditions de travail sont dures. Les journées commencent au lever du soleil et durent jusqu'au soir. Le blé, à cette époque, était coupé à la faux par les hommes et les femmes, et les femmes les mettaient en ballot. Et tout ça, sous le soleil ardent d'Ouelantège. Alors un jour, Katharina et 13 autres de ses camarades prennent leur courage à deux mains et vont s'adresser à l'intendant du domaine pour qui elles travaillent, si on peut appeler ça un travail. Elles ne demandent pas grand-chose, juste une augmentation journalière de 2 escudos, ce qui porterait leur indemnité par jour à 23 escudos.
Se tu não vives satisfeito, muda de vida estás. Sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se a vida em ti a latejar. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens que ser assim? Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida não deves viver contrafeito. Muda de vida se a vida em ti a latejar. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens que ser assim? Olha que a vida não é nem deve ser como um castigo que tu terás que viver. Olha que a vida não é nem deve ser como um castigo. Sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se a vida em ti a latejar. Muda de vida, se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se a vida em ti a latejar.
Ensemble, les moissonneurs n'approuvaient pas que les femmes se réunissent et se mettent en grève, mais ne firent rien pour les en dissuader. À elles seules, les 14 femmes réussissent à intimider l'intendant, qui, puis plus tard, se rend à Bège, demander de l'aide aux propriétaires. Dans un premier temps, ils feront venir d'autres travailleurs agricoles venus du district limitrophe pour casser la grève. En vain, car les nouveaux arrivants prendront le parti des femmes grévistes. En tout dernier ressort, les propriétaires enverront la garde nationale républicaine pour remettre de l'ordre dans le conflit. Quand la GNR arrivèrent sur place, ce 19 mai 1954, Katharine fut choisie par ses collègues pour communiquer leurs revendications. Quand le lieutenant de la GNR demanda ce qu'elle voulait, Katharina aurait répondu « du travail et du pain ». En guise de réponse, le lieutenant lui donnera une gifle qu'il enverra au sol. En se relevant, bravement, elle aurait lancé aux gardes « maintenant, tuez-moi ». Ce que fit ce brave lieutenant, il sortit son pistolet et tira trois fois vers Katharina. Malheureusement, l'enfant qu'elle tenait dans ses bras fut blessé lors de sa première chute, quand elle fut frappée. Et une autre paysanne fut également blessée au moment des tirs. Mais Katharina ne se releva pas et fut tuée pratiquement sur le coup. Je dis pratiquement car selon certains témoignages, elle serait morte dans les bras de son patron, arrivée entre-temps et aurait lancé aux policiers « Oh, monsieur le lieutenant, vous avez tué une femme, mais que faites-vous donc ?» En faisant des recherches sur Internet, j'ai trouvé une autre version, légèrement différente, du moins ce qui concerne le meurtre. Quand elle répondra « Nous voulons juste du pain et du travail », elle aurait essuyé une rafale de mitraillette par le lieutenant Carajol. Son bébé de 8 mois qu'elle tenait dans ses bras se serait blessé dans la chute et la mère succombera peu après. En un instant, cette petite femme, anonyme, elle faisait 1m65 et pesait pas bien lourd, analphabète et pauvre, passa à la postérité en étant le fer de lance de la résistance contre le régime et le symbole de la contestation paysanne contre les grands propriétaires et qui perdurera bien après le 25 avril par les réformes agraires de Noailles-en-Teige. C'est dans cette région qu'en 1975 que des centaines d'unités collectives de production et de coopératives seront créées sur les terres désertées et occupées par les travailleurs. Suite à l'autopsie et craignant des débordements de la population, les autorités décident que les funérailles seront organisées d'une manière discrète et font avancer d'une heure la cérémonie. Mal leur en a pris car au moment de l'évacuation discrète du cercueil, la populace courra vers le corbillard avec des cris de protestation. La police va réprimer avec une rare violence ce mouvement de foule, se prenant non seulement aux membres de la famille de la défunte, mais aussi à d'autres ouvriers agricoles de Balaisan, ainsi qu'à de simples habitants de Beige qui voulaient assister à l'enterrement. Au bout du compte et en fin de journée, elle sera inhumée à Quintos, le village de son mari, et non à Balaisan, qui est situé à environ 10 kilomètres. Quand le lieutenant Carajol, il sera transféré à Ljustrel, dans le district de Lerille, le petit village des trois petits bergers de Fatima. Il n'a jamais été jugé par un tribunal et mourra de sa belle mort en 1964. Pour l'anecdote, le bébé de 8 mois de Katharine, qui fut blessé lors de l'assassinat à l'âge adulte, s'engagera dans la lutte contre le régime salazariste et deviendra une icône de la résistance dans le Noailles-en-Teige. Le Parti communiste par la suite s'en appropria et en fit une légende de la résistance antifasciste du régime. Le parti prétendra aussi qu'elle était une militante du Parti communiste portugais, ce qui ne s'est jamais avéré, bien au contraire. Ses collègues l'avaient choisie car elle n'avait aucune opinion politique et qu'elle était aucunement suspectée d'être communiste. Par contre, les membres de la famille ont affirmé plus tard qu'elle était membre de l'UDP. Depuis, PCP et UDP continuent à se disputer la mémoire de Katharina.
Chico nem sinal. Há quem diga que emigrou, há quem diga que encontrou uma brasileira que não está nada mal. E a Dolores todos os dias o espera com o seu palume e o prato do costume. Finge não ouvir a vizinhança e pede a Deus um pouco mais de esperança. Só Chico, oh Chico, onde te foste? Não me faças mais sofrer. Esta pequena dor sonha em encontrar um português com olhos cor de mar. Ninguém entendia o porquê da maluqueira que tinha do outro lado da fronteira. Conheceu o Chico em Almerimar e logo ali decidiram casar. Deus levou o essencial, a velha caixa de costura e o avental. Oh, Chico! Oh, Chico,
ninguém previa tal final. Agora diz de longe, com lamento, de Espanha nem bom vento, nem bom casamento.
Oh, Chico, oh, Chico,
onde te foste meter?
Oh, Chico,
me Chico, não me faças mais, não me hagas mais, não me faças mais sofrer.
Sofia de Mello Brenner Andresen est née à Porto en 1919, dans une vieille famille aristocratique. Elle est considérée de nos jours comme la plus grande poétesse du XXe siècle. Elle fut la première femme portugaise à avoir obtenu le plus important prix littéraire portugais. En 1999, le prix Camões. Son recueil de poésie, Livro Sexto, est classé à la 15e place sur la liste des 50 œuvres essentielles de la littérature portugaise qui fut établie en 2016 par le Diário de Notícias. Engagée politiquement à gauche, elle contribuera à l'instauration de la démocratie au Portugal. Elle est l'auteur également de contes pour enfants. Elle publiera son premier recueil de poésie en 1944. En 1946, elle épousera Francisco Sousa Tavares, un journaliste, politicien et avocat, dont elle aura 5 enfants. Le plus connu des 5 est certainement Miguel Sousa Tavares, avocat et journaliste de renom. D'ailleurs, des extraits de ses poèmes sont affichés dans les couloirs de l'Océanarium de Lisbonne. Un de ses poèmes est dédié à Catarina Efêmia, qui l'a grandement popularisé. Elle décédera à Lisbonne à l'âge de 84 ans, le 2 juillet 2004. Il y a beaucoup de ses œuvres qui ont été traduites en français. Des poésies, comme La nudité de la vie, anthologie, paru en 1996, Malgré les ruines et la mort, paru en 1944, Méditerranée en 2001, Navigation en 1983. Des contes également ont été traduits, contes exemplaires, en 1962, Histoire de la terre et de la mer, 1984. Les deux ont été traduits par Alice Caffarel et Claire Quéron, dans les éditions de la Différence. Et puis enfin, des contes pour enfants. Le garçon de bronze, en 1956, La petite fille de la mer, Amelina Dumar, en 1958, La fée Oriana, Afada Oriana, en 1958, La forêt, en 1968. Maintenant, nous allons écouter l'actrice et conteuse historique Anna Sofia Peva réciter de sa belle voix suave le poème Catarina Efêmia de Sofia de Mello Brenner Andresen sur le fond musical de la magnifique chanson de José Afonso, Cantar a Lanjan.
Amava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Serranas vira nem vida, Valença a viu morrer. Serranas viram em vida, balançam a viu morrer. Balançam a viu morrer.
O primeiro tema da reflexão grega é a justiça. E eu penso nesse instante em que ficaste exposta. Estavas grávida. Porém, não recuaste. Porque a tua lição é esta: fazer frente. Pois não deste homem por ti, e não ficaste em casa a cozinhar intrigas, segundo o antiquíssimo método oblíquo das mulheres, nem usaste de manobra ou de calúnia. E não serviste apenas para chorar os mortos. Tinha chegado o tempo em que era preciso alguém que não recuasse. E a terra bebeu um sangue duas vezes puro. Porque eras a mulher e não somente a fêmea. Eras a inocência frontal que não recua. Antígona poisou a sua mão sobre o teu ombro no instante em que morreste. E a busca da justiça continua.
Não perdoa a quem matou. Aquela pomba tão branca, todos a querem para si. Aquela pomba tão branca, todos a querem para si. Oh, Alentejo queimado, ninguém se lembra de ti. Oh, Alentejo queimado, ninguém se lembra de ti.
Bien, voilà, notre émission touche pratiquement à sa fin, en espérant que vous avez apprécié. D'ailleurs, le choix d'aujourd'hui ne fut pas fortuit. Ils sont, comment dire, un peu collés à l'actualité du moment. Donna Garcia, car elle fut la première à avoir rêvé d'une terre d'accueil pour les Juifs, et au mois de janvier, on a commémoré les libérations des camps d'extermination nazis. Et puis, Katharina, car elle fut l'un des symboles de la résistance contre la dictature et l'extrémisme. Et il est bon de rappeler qu'elle était Alentejana, Volantej qui fait arriver en seconde position Ventura, le leader de l'extrême droite au Portugal, aux dernières élections présidentielles qui se sont déroulées dernièrement au Portugal. Volantej qui traditionnellement était une terre communiste. Les hommes de tout temps ont toujours eu la mémoire courte, c'est comme ça. On n'y peut pas grand-chose. Et puis enfin, nous avons voulu aussi parler de Sophie Melbrenner, car déjà on avait un peu de temps, mais aussi car elle a su sublimer avec son magnifique poème la figure qui est devenue légendaire de nos jours d'une petite paysanne alentejana, un alphabète de surcroît qui a voulu aller au bout de ses convictions en y payant chèrement de sa vie. C'est grâce à des personnages comme elle, et comme bien d'autres d'ailleurs, qui fait que l'histoire du Portugal est belle, et que les légendes sont là pour sublimer et enjoliver la vérité, et je pense que c'est aussi bien comme ça. Au revoir chers amis, et puis à la prochaine fois.
Os campos secos, campos e a calma, ceifando o trigo. repartir, repartir com quem não tem. O rico, o rico ficava rico, o rico ficava rico e o pobre ficava
thank you. maximum de musique, un maximum de son. 96.9,
c'est Radio Résonance.
Voilà, très chers auditeurs, notre émission se termine. Merci à vous tous qui nous êtes désormais fidèles. On revient évidemment la semaine prochaine pour d'autres rencontres lusophones. D'ici là, faites attention à vous et aux autres. Je vous embrasse.
Et oui, rencontre lusophone se termine, mais c'est pour mieux revenir la semaine prochaine. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'oubliez pas qu'elle est rediffusée demain soir à 20h30 sur cette même fréquence. Et puis, il y a toujours ce podcast sur la page de Radio Résonance ou sur notre page Radio Facebook. Bon week-end et n'oubliez pas de sortir couvert et masqué à samedi prochain. À tes mailles!
Servir, caguei os cursos de me aproximar.